changement de rythme, changement de vie. La Calédonie vit au tempo de la rentrée scolaire. Près de 60 000 élèves et leurs familles sont concernés cette année. Page spéciale, évidemment, dès le début du journal. Un jour pas comme les autres pour la communauté sino-vietnamienne. Elle célèbre ce soir l'entrée dans le nouvel an asiatique. Dans la région, un projet à 2000 milliards de francs. Le Premier ministre australien a annoncé le lancement d'un vaste chantier de construction navale à Adélaïde. En métropole, l'onde de choc continue de se propager après le lynchage de Quentin, 23 ans à Lyon. La violence de l'ultra-gauche est pointée du doigt. Et puis le retour du projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Les tenants de l'encadrement du droit à mourir n'ont pas baissé les bras. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera avec le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous parlerons évidemment rugby avec la suite du tournoi des Six Nations et tout va bien pour les Français.
Oui, le 15 de France qui n'a pas tremblé chez les Gallois. Une victoire large, 54-12 au moment où le rival anglais s'est incliné en Écosse. Les Bleus sont désormais les seuls en capacité de pouvoir réaliser le grand chelem en tête donc de ce tournoi des Six Nations à l'issue de la deuxième journée.
Et puis on fera un point évidemment sur les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina.
La France totalise désormais 15 médailles et égalise son record de podium dans des JO d'hiver, toujours porté par le ski de fond et le triple médaillé d'argent Mathis Desloges. Même si on attendait mieux aujourd'hui du biathlon, une seule médaille de bronze en poursuite pour Émilien Jacquelin. Déception pour Lou Jean Monod et Océane Michelon qui terminent au pied du podium. La France est sixième du tableau des médailles.
Les résultats sport en Calédonie, bien sûr, dans le magazine des sports. Et puis une invitée, nous parlerons football avec elle.
Oui, un rêve de mondial au Brésil pour le foot féminin. La campagne qualificative en fut de la Coupe du Monde de 2027 débute bientôt pour les Calédoniennes. Le tournoi FC qui débutera le 27 février, ça se passera au Fidji. Le départ est prévu en fin de semaine. Nous recevrons pour en parler la nouvelle sélectionneuse, Christelle Wanaoué.
Un magazine des sports à retrouver dès la fin de ce journal.
Suivez les pages rentrées avec l'As de trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.mc. Ouais.
Les cartables sont donc de sortie lors de la rentrée à sonner pour les près de 60 000 enfants qui vont retrouver les cours pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée est un jour particulier, notamment pour les plus petits. Prenons la direction de l'école maternelle et primaire Saint-Joseph de Cluny qui accueille cette année 484 élèves. Ils ont effectué leur rentrée dans l'établissement. Ce sont les enfants des toutes petites sections qui ont intégré leur classe ce matin.
Toutes les jouets. Colorier aussi.
Et t'as pas peur de laisser maman et papa?
J'ai gros. Je s'appelle Gabrielle. Et j'écoute la maîtresse et écoute les. Et je fais pas de bêtises. Je joue à ça. Ça, c'est des blocs.
T'aimes bien venir à l'école?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est mien. J'ai à peine 11.
T'aimes bien venir ici?
Oui, et parce que.
Voilà, un gros changement pour les tout-petits, les enfants et leurs familles qui ont été accueillis par le directeur de l'école Saint-Joseph de Cluny, Marc Talamona. Il a présenté l'équipe pédagogique aux parents avant une petite cérémonie de bénédiction des cartables.
Nous accueillons en priorité les petites sections de maternelle. Les moyennes et les grandes sections de maternelle, eux, vont rentrer mercredi. Alors pourquoi les petits à la maternelle uniquement? Pour favoriser quelque part l'accueil et notamment le personnel enseignant des classes maternelles en section des moyens et section des grands aujourd'hui sont réquisitionnés pour les petits, notamment pour parfaire cet accueil. Et sinon, pour l'élémentaire, tout le monde du CP au CM2, tout le monde rentre aujourd'hui, oui. L'entrée à l'école maternelle, c'est un moment qui est très, très, très important. Hein. Pour un petit, c'est l'entrée dans le monde social. Donc c'est une séparation donc qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner, qu'il faut étayer, d'où l'importance du dispositif ici à l'école Saint-Joseph de Cluny depuis maintenant 17 ans.
Les petites sections de maternelle ont donc fait leur rentrée ce matin à Saint-Joseph de Cluny, mais aussi les enfants du primaire, du CP au CM2.
Je suis en CM2.
Alors, t'es content de rentrer à l'école?
Oui, bah parce que je vais voir tous les camarades de l'année dernière.
J'aime bien, retrouver les copains et puis apprendre à se connaître.
Et toi, ton objectif cette année, c'est?
Travailler, d'apprendre et puis se préparer pour aller en sixième.
Tu rentres en quelle classe cette année?
CP.
Content de reprendre l'école?
Oui, parce que j'ai revu mes copains.
J'aime bien revoir les copains, manger à la cantine et voir la maîtresse.
C'est la rentrée, on retrouve nos copains, on découvre nos maîtres et nos maîtresses. Et voilà. On va retravailler.
c'est important, c'est super pour notre éducation. Ouais, c'est cool.
Et les vacances, vous êtes pas un peu déçus que ça soit terminé?
Non, parce que c'est bien de retrouver ses amis, être à l'école, s'amuser, apprendre. Même si on faisait déjà des devoirs au centre et même à la maison, ben c'était cool.
Voilà, des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Les moyennes et grandes sections de l'école maternelle et primaire Saint-Joseph de Cluny rentreront, eux, mercredi. Venons-en maintenant à la rentrée scolaire en collège. Lionel Sabot, on vous a entendu ce matin à 7h30. Vous étiez en direct du collège Boulary pour la rentrée des classes en 6e.
Le collège de Boulary qui va accueillir cette année un peu moins de 600 élèves, toutes sections confondues. Et en effet, ce matin, ce sont les 6e qui étaient à l'honneur. Comme dans de très nombreux établissements, c'est une rentrée échelonnée qui est organisée au collège de Boulary. Écoutez Didier Lefebvre, c'est la principale du collège.
Ce matin, c'est les 6e. Cet après-midi, nous accueillons les 5e et les 4e. Et demain, nous consacrons toute la journée pour nos élèves de 6e pour une journée d'intégration. Ce passage est un moment stressant pour les élèves et il est intéressant de pouvoir leur consacrer du temps déjà pour qu'ils découvrent les locaux, découvrent les personnels et qu'ils apprennent à se connaître. Ils étaient dans une école, là ils viennent de différentes écoles au sein d'un établissement. Donc l'objectif, c'est de prévenir plutôt que guérir. Donc apprendre à se connaître, à communiquer, à créer du lien, ça c'est extrêmement important et ça augure d'un climat scolaire positif.
Rentrée aujourd'hui donc pour les 6e, 5e et 4e. Quant aux désormais plus grands de l'établissement, les 3e, ils feront leur rentrée mercredi. On retrouve Didier Lefebvre.
Il y a des enjeux assez importants pour les élèves de 3e. Il y a l'orientation, il y a le DNB qui va changer à cette rentrée. Donc voilà, on va prendre du temps aussi pour leur expliquer les attendus et ne les avoir que, c'est-à-dire un groupe de 150 élèves, pour pouvoir faire un travail de fond avec eux et leur donner les renseignements utiles pour une année scolaire de 3e réussie.
C'est donc parti pour une nouvelle année scolaire au collège de Boulary. Ce matin, c'est en toute sérénité que les élèves de 6e ont découvert leurs professeurs principaux et leur classe. Des enfants globalement très heureux de franchir une nouvelle étape dans leur vie scolaire.
C'est un peu stressé et un peu aussi de joie. J'ai quand même assez hâte de voir les cours, comment se passera.
Ça fait quoi d'être au collège ?
Ben, ça fait un peu bizarre de grandir aussi.
J'ai très hâte de passer au 5e. Mais
déjà.
Oui, déjà. Mais d'abord, je vais bien apprendre et bien connaître le collège. Mais je stresse un peu parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est pas comme d'habitude.
C'est chouette, c'est merveilleux.
Qu'est-ce que tu attends de cette année scolaire? De bien réussir?
Oui, de bien réussir et de bien faire mon année scolaire.
Voilà pour cette rentrée des 6e ce matin au collège de Boulary. Les 5e et 4e se retrouveront donc cet après-midi. Les 3e, ce sera mercredi. Et à partir de jeudi, les cours débuteront réellement pour l'ensemble des élèves du collège de Boulary.
Des plus petits aux plus grands, maternelle, primaire, collège et désormais lycée. Michael Juneski, vous nous avez fait vivre la rentrée ce matin en direct du lycée Gilles-Huquet.
Oui,
Exactement,
hein, des élèves qui débutent leur année scolaire dans le lycée, les élèves en classe de seconde essentiellement, des adolescents en effet qui font leur premier pas dans leur établissement ce lundi pour entamer la dernière ligne droite qui va les mener évidemment jusqu'à la fin de leur scolarité, on l'espère avec le baccalauréat. Entre anxiété et sourire, stress et plaisir de retrouver les amis, les sentiments étaient partagés.
Ah, ça fait du bien, retrouver la bonne, voilà. Ça.
Un peu stressé au début, mais on se calme et on va voir comment c'est.
Ah, ça fait du bien de revoir ses amis.
C'est stressant.
C'est bien en vrai.
Bah, un peu triste parce qu'on pouvait quand même voir les amis pendant les vacances, mais là on a les cours.
On doit reprendre les habitudes et ça c'est compliqué un peu.
Je trouve c'est bien parce que bah, je suis pas beaucoup sorti pendant les vacances, du coup bah, je peux retrouver les gens avec qui j'étais au collège.
Bon, moi je me sens bien, hâte de découvrir notre nouveau lycée, de voir les profs et les matières qu'on aura.
Moi ça va, j'ai surtout hâte pour la nouvelle classe que j'aurai.
C'est spécial, c'est un peu stressant, ça montre qu'on devient adulte, qu'on grandit.
Et des élèves qui étaient parfois accompagnés de leur famille pour découvrir leur établissement.
Je crois que je stresse plus qu'elle.
Elle rentre en seconde?
Oui, et puis j'ai un peu peur parce que voilà, c'est y a des plus grands.
Ça va bien se passer?
Oui, sa grande sœur.
Vous avez connu ça, je suppose?
Oui, je suis passée par là et du coup, ben, aujourd'hui, je suis venue l'accompagner pour sa première année, enfin sa première rentrée au lycée. Et du coup, voilà. Ça fait un petit truc aussi de revenir, sachant que c'est plus nous qui rentrons, mais que voilà, c'est la petite sœur.
Vous étiez dans quel lycée, vous?
Ici, j'étais ici. Elle est très stressée, elle a peur du changement aussi parce que ça change beaucoup du collège. Elle appréhende.
Un changement d'environnement pour ses secondes, mais la rentrée s'est passée dans les meilleures conditions, nous a dit Frédéric Géraud, proviseur du lycée d'Ikukewe.
C'est un jour important pour les familles, oui, et puis là, en l'occurrence, comme on ne rentre que les élèves de seconde aujourd'hui, important pour la cohorte montant de troisième. Donc on a 15 divisions de seconde, donc on est stable dans les effectifs de seconde. On a en tout, pour l'instant, 1600 élèves au lycée d'Ikukewe, avec environ 320-330 élèves dans le supérieur. C'est une satisfaction. Quand on lance le feu vert, le lycée d'Ikukewe, c'est 65 divisions, mais c'est aussi 500 groupes qui fonctionnent au quotidien. Donc c'est une très grosse machine à préparer, à mettre en œuvre. Voilà.
Au lycée d'Ikukewe du Grand Nouméa, ils étaient plus de 450 élèves en classe de seconde à faire leur rentrée aujourd'hui.
Voilà donc la rentrée pour tous les élèves des plus petits aux plus grands. Une rentrée qui s'est effectuée sous haute surveillance. Les policiers et les gendarmes étaient mobilisés ce matin aux abords des établissements scolaires pour mener une opération de sécurisation, Léana Colombo.
Et ils étaient une soixantaine déployés dans tout Nouméa, dont une vingtaine devant les lycées Escoffier et La Pérouse. Un dispositif renforcé pour garantir une reprise apaisée pour les élèves, leurs familles et la communauté éducative. Aux entrées des établissements, les forces de l'ordre ont procédé à des fouilles de sacs, à la recherche de stupéfiants ou encore d'armes blanches. Anaïs Haït-Mansour, directrice de cabinet du Haut Commissaire.
Il y a quelques contrôles qui sont effectués sur réquisition du procureur de la République. L'année dernière, déjà, en fait, on était quasiment à 3 à 4 établissements qui faisaient l'objet de ce type d'opération par semaine sur toute la Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, on a trouvé quelques armes blanches, mais il s'agissait plutôt de petits couteaux, ustensiles utilitaires. Ça nous permet néanmoins, en fait, d'avoir une présence physique. L'année dernière, par exemple, on a eu des tentatives de vol de véhicules devant des établissements scolaires. On a pu interpeller très, très vite les auteurs présumés. Donc, ça fait partie, en fait, d'un continuum de sécurité globale, où on est là, on est présent. Les parents sont assez rassurés de savoir que voilà, il y a des effectifs proches de l'établissement scolaire de leurs enfants et surtout ça rassure la communauté éducative à qui on souhaite aussi une très bonne rentrée scolaire.
À travers cette opération, les autorités veulent enrayer la progression des armes blanches dans les collèges et lycées, un phénomène déjà constaté en métropole. Sur place, les parents venus accompagner leurs enfants se sont montrés majoritairement favorables à ces contrôles renforcés.
Ça me rassure, hein. En tant que maman.
Je suis contente aussi, ils font leur travail, c'est bien, c'est pour la sécurité aussi des enfants. C'est ça qu'il faut faire, il faut bien sécuriser les enfants. Les sacs, il faut bien fouiller pour que les enfants soient honnêtes à l'école aussi.
C'est sur réquisition du procureur, hein. On contrôle votre sac pour voir si vous n'avez pas d'objet tranchant ou piquant. Ça, c'est pour. Ok.
C'est pour l'école.
C'est bon, vous n'avez rien. Passez une bonne journée.
Au revoir. Au revoir, monsieur.
Ça me rassure, la police, ils sont là. Il y a des gosses qui sont bien, il y a des gosses que voilà, ils peuvent se montrer qu'ils sont bien, mais au fond, on peut toucher aussi, on peut faire des trucs. Mais c'est sûr que quand je vois la police, c'est bien, c'est bien.
On était en train de se poser la question, il y a le bus qui passe là, est-ce qu'elle va prendre le car, est-ce que quelqu'un va venir la chercher, mais avec les jeunes, avec ce qui se passe, je ne suis pas rassurée.
Donc c'est pour ça, le fait qu'il y ait une présence policière aussi. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est bien.
En parallèle de ce dispositif de sécurité, un contrôle routier a été conduit par la police nationale. Voitures de particuliers, mais aussi bus scolaires pouvaient être inspectés. Le contrôleur général Marjorie Ghisoli, directrice territoriale de la police nationale, était présente sur le terrain pour superviser le dispositif.
Aujourd'hui, c'est évidemment une journée particulière où on tient à être présent, où on tient à ce que tous, l'éducation nationale, mais aussi les élèves et les parents, se sentent en sécurité cette nouvelle année et qu'on marque le fait qu'on tient à ce que nos établissements scolaires et que la vie scolaire soit sécure. On profite, si je puis dire, donc aussi des bus de transport scolaire d'enfants hein, pour assurer une sécurité, vérifier que tout va bien, que ce soit les conducteurs, que ce soit les engins, que ce soit les assurances et que là aussi, dans ce domaine-là, dans le domaine de mobilité des enfants et des jeunes vers les établissements scolaires, qu'ils soient en sécurité du moment où ils quittent leur maison jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur établissement scolaire.
Autre secteur placé sous surveillance accrue, les quartiers de Tuban, Rivière-Salée, Porte de Fer, traversés notamment par la nouvelle ligne de bus du SMTU. Une présence renforcée des forces de l'ordre qui doit se maintenir jusqu'à la fin de la semaine.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. La baisse des effectifs pour cette rentrée scolaire 2026 avec, pour la première fois depuis 30 ans, moins de 60 000 élèves scolarisés. Est-elle selon vous un phénomène inquiétant? Si vous jugez inquiétante la baisse des effectifs scolarisés, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146.
Mazda vous offre les pages souvenirs de rentrée. Chez Mazda, en ce début d'année, retrouvez toute notre gamme. Citadine, SUV, utilitaire, sportive, à chaque besoin, nous avons ce qu'il vous faut. Passez-nous voir et trouvez le véhicule dont vous avez besoin pour vous, votre activité professionnelle ou vos loisirs.
Eh oui, c'est le petit plus pour cette rentrée scolaire sur Radio Rythme Bleu. Comme chaque année, nous vous proposons un coup d'œil dans le rétroviseur avec les souvenirs de rentrée. Et nous avons demandé cette année à plusieurs personnalités quel est pour elles l'objet qui symbolise la rentrée scolaire ce midi. Écoutez, Ismet Kurtovic, c'est l'un des consultants du club politique sur Radio Rythme Bleu.
Moi, c'est l'entrée en sixième. C'est au Collège Sacré-Cœur à Bouraille. C'est un dictionnaire. J'avais eu, je ne sais pas comment, un dictionnaire, et c'était un dictionnaire Larousse, Petit Larousse, ça s'appelait. Pour moi, c'était l'objet de la rentrée, et j'aimais bien le regarder souvent. Et au milieu, il y avait les pages roses avec les citations latines, et il y avait la carte du monde, et à la fin, il y avait les différents drapeaux, et tout ce qui concernait l'histoire, c'était à la fin. Donc ce dictionnaire, que j'ai toujours, m'a accompagné pendant toutes mes années de collège et c'est l'objet de la rentrée, je ne donne pas l'année, mais c'était la classe de 6e. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a besoin de dictionnaire papier, mais en tout cas, mon message, c'est que c'est toujours bon de connaître la définition exacte des mots et donc de consulter le dictionnaire, que ce soit sur Internet ou le dictionnaire papier.
Voilà, le dictionnaire, l'objet qui symbolise la rentrée scolaire pour Ismet Kurtovic, l'un des consultants du club politique. Une rubrique que vous retrouverez tous les jours de la semaine sur RRB pour accompagner cette rentrée.
C'était les pages souvenirs de rentrée offertes par Mazda. Passez-nous voir à notre showroom situé au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta et repartez avec le véhicule qui vous convient. De la citadine à l'utilitaire, Mazda, c'est toute une gamme qui s'adapte à vos besoins. Mazda, drive together.
Et à 11h et bientôt 48 minutes, on va refermer cette page spéciale rentrée scolaire.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment évidemment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et c'est l'heure de retrouver en ce jour de rentrée scolaire la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
C'est donc la rentrée, mais pas seulement pour les scolaires. Traditionnellement, la reprise des cours donne le coup d'envoi de la rentrée dans tous les secteurs de la vie de la cité, social, économique et politique. Et cette année, la rentrée politique va être préemptée par deux événements. D'une part, le processus parlementaire pour l'aboutissement de l'accord de Bougival, et d'autre part, les élections municipales, dont le premier tour est dans moins d'un mois, le 15 mars. La rentrée devrait galvaniser la campagne municipale qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Et on espère qu'elle va la clarifier. Parce que pour l'instant, quelle salmigondie ! Au point qu'au stade actuel, on se demande comment les électeurs vont pouvoir s'y retrouver. Il y a d'abord la division que l'on retrouve dans les deux camps. Malgré leur tentative d'union, les partisans de la France n'ont pas réussi dans de nombreuses communes à afficher un front commun. Quant aux indépendantistes, les divisions et la fragmentation des derniers mois ont fait leur œuvre et ils iront la plupart du temps en ordre dispersé. Mais il y a ensuite la difficulté à identifier les différentes candidatures avec la multiplication des listes sans étiquette. Elle revendique diverses appellations, liste d'ouverture, liste citoyenne, liste de proximité ou liste de la société civile, comme si une étiquette politique était aujourd'hui un repoussoir ou un gros mot. Et on est forcé de s'interroger sur cette espèce d'anonymisation que revendiquent aujourd'hui de nombreuses candidatures. Il y a plusieurs explications à cela, autant peut-être que de listes sans étiquette. Il y a d'abord les candidats qui pensent que les partis politiques ont tellement mauvaise réputation aujourd'hui qu'il vaut mieux s'en affranchir. Il y a ensuite ceux dont les partis politiques sont tellement affaiblis qu'ils ne sont plus capables de former une liste sur la base de leurs seuls adhérents et militants. Ils se mettent à plusieurs partis pour former une seule liste et ils y ajoutent une pincée de ce que l'on appelle « société civile » pour faire illusion. Il y a enfin les listes issues uniquement de cette fameuse société civile, dont on se demande encore ce qu'elle recouvre. La plupart du temps, ce sont des personnalités qui critiquent les élus et la politique, parce qu'ils rêvent surtout d'être élus et de faire à leur tour de la politique. Mais au-delà de ces dénominations aléatoires, il y a quand même quelques enjeux dans cette campagne municipale. Et le scrutin va peut-être permettre de distinguer les pro-Bougival et ceux qui y sont opposés. Ce sera le cas notamment chez les indépendantistes, où la fracture est claire entre l'UNI, qui se fait le défenseur inconditionnel de l'accord du 12 juillet et de son accord complémentaire Élysée-Oudinot, et l'UCF-LNCS-CCAT qui refuse en bloc les accords signés, la réforme constitutionnelle et le calendrier parlementaire. Au-delà de l'échec de la mobilisation de ce samedi, le nouveau FLNCS va pouvoir se compter dans les urnes, et l'UNI aussi, qui en plus de ses thèmes de campagne municipale défendra forcément sa conviction que le temps des négociations est terminé et sa volonté d'aller de l'avant. Chez les partisans de la France aussi, il y a une rupture, mais elle est davantage entre les défenseurs de Bougival et ceux qui expriment leur scepticisme. Et puis, il y a les tenants de la troisième voie, qui au travers de listes qui sont souvent des faux nez, vont tenter de prouver que le centre existe, qu'il a une réalité. Dans cette dispersion et cette confusion, on plaint le Haut Commissariat qui est chargé de classifier les candidatures en fonction de leurs nuances politiques pour rendre plus lisibles les résultats. Il n'est pas sûr que l'on pourra lire grand-chose.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, qui est à retrouver évidemment comme chaque semaine sur notre site internet et qui est aussi à réécouter cet après-midi juste après le flash de 16h. La rentrée scolaire, c'est donc le grand titre de l'actualité, mais un autre événement est à signaler. C'est une période de renouveau qui s'ouvre pour les communautés vietnamiennes et chinoises du territoire. Elles vont en effet fêter ce soir le nouvel an chinois et la fête du Tet, Charlotte Coulson.
Ça y est, 12 mois lunaires se sont écoulés depuis le 29 janvier 2025. Cette nuit marque donc le début d'une nouvelle année pour les Chinois et les Vietnamiens. Une année placée sous le signe du cheval de feu sur le territoire. L'Amicale vietnamienne de Nouvelle-Calédonie organise une grande célébration ce soir. Patrick Guillon et le président de l'Amicale.
Dans le rituel de passage à la nouvelle année, nous avons le réveillon, qui est un repas partagé en famille, pour dire au revoir à l'année passée et accueillir la nouvelle année comme il se doit. Ici, à l'Amicale vietnamienne, nous perpétuons une tradition qui nous a été transmise par nos anciens, c'est-à-dire que ce repas traditionnel en famille est partagé avec tous ceux qui se reconnaissent comme nos amis et qui souhaitent partager notre culture et nos valeurs.
Et au programme des festivités, un spectacle de danse traditionnelle, un buffet bien sûr, avec des spécialités culinaires, et puis à minuit pile, 10 000 pétards seront claqués. C'est donc une grosse soirée que préparent les bénévoles depuis plusieurs jours, comme Jean-Baptiste qui ce matin avait les mains plongées dans la vaisselle.
On a fait appel à un artiste local. Vous voyez les dessins qui sont accrochés là-bas, là ? C'est lui qui l'a fait, parce qu'on rentre dans l'année du cheval de feu. Là, ça représente les chevals d'eau, de terre, de bois et de feu.
Je vois qu'à l'entrée aussi, il y a une table un petit peu spéciale.
C'est l'hôtel pour en honneur nos ancêtres. Donc, il y a des fruits de saison et aussi le traditionnel benching.
Le plus gros du travail, justement, c'est peut-être faire à manger. Ils travaillent depuis quand
Depuis hier, ils ont commencé à amener les légumes. Ils ont commencé à laver, mettre dans la chambre froide. Et depuis ce matin, ils sont en train de cuisiner. Couper la viande, couper le poulet et cuisiner.
près de 400 personnes sont attendues ce soir au foyer vietnamien.
C'est aussi une journée importante pour la communauté javanaise du territoire qui célèbre aujourd'hui le 130e anniversaire de l'arrivée des premiers javanais en Calédonie. Un dépôt de gerbes est organisé ce soir à 17h à la stèle située baie de l'Orphelinat. En bref, l'incendie du centre d'enfouissement des déchets de Gadji est éteint. Incendie qui, selon les pompiers, a été maîtrisé quelques heures seulement après son signalement. Ce matin, il est donc totalement éteint. Les soldats du feu sont restés toute la nuit sur place pour surveiller les derniers points chauds. Ce dimanche, en raison de fumée potentiellement toxique. Il a été demandé à la population de rester confinée à domicile, de fermer portes et fenêtres et de prendre des précautions. Et puis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris connaissance de la pétition et des prises de parole publiques relatives aux difficultés d'accès à un médecin ophtalmologique sur le territoire, Nicolas Legrand.
Oui, cette situation appelle des réponses concrètes et durables dans l'intérêt des patients, écrit l'exécutif par voie de communiqué. Mais il appelle à la prudence pour des démarches qui doivent s'inscrire dans un cadre sanitaire devant rester fondé sur les compétences des professionnels de santé et sur une organisation coordonnée du parcours patient. Le gouvernement rappelle que la primo-prescription de verres correcteurs implique de pouvoir écarter certaines pathologies oculaires et nécessite, le cas échéant, une évaluation clinique et des examens complémentaires. Il rappelle également qu'il porte, à travers le projet de loi du pays portant diverses dispositions en matière sanitaire et sociale, une démarche structurante pour mieux organiser le parcours de soins, sécuriser les prises en charge et améliorer l'accessibilité, réaffirmant sa volonté d'apporter des réponses rapides et structurelles.
L'actualité dans la région avec cette annonce du Premier ministre australien qui annonce le lancement d'un vaste chantier de construction navale à Adélaïde. Projet de 30 milliards de dollars, c'est-à-dire 2 000 milliards de francs pacifiques. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a indiqué que l'édification de cette installation ultra-moderne sur un site de 75 hectares devrait, dans sa phase initiale, créer plus de 4 000 emplois auxquels vont s'ajouter les 5500 spécialistes qui vont ensuite y construire les submersibles dont la marine australienne va se doter dans le cadre de l'accord tripartite de coopération militaire AUKUS, lequel englobe les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. D'investir dans ce chantier naval, a déclaré Anthony Albanese, va permettre à l'Australie de se doter de sous-marins nucléaires à armement conventionnel. Il s'agit d'un facteur déterminant pour la sécurité nationale et la manière dont nous allons défendre notre pays à l'avenir, a-t-il ajouté. C'est également un moteur de notre prospérité économique, a-t-il conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et à 11h58, on va marquer une nouvelle pause. Dans un instant, on se retrouve pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
On pulvérise les prix chez Bureau Vallée. Le fauteuil Gamer Fusion S est à moins 25%, soit 19 425 francs.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valide jusqu'au 22 février 2026.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Tout de suite, l'actualité en métropole.
Colère, émotion, incompréhension, des sentiments qui s'amplifient après la mort de Quentin. Ce jeune homme de 23 ans a été lynché jeudi soir à Lyon en marge d'une conférence de l'eurodéputé LFI Rima Hassan à Sciences Po. Il a été frappé à mort par plusieurs personnes et les militants de l'ultra-gauche sont pointés du droit dans ce drame. La nuit dernière, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris, place de la Sorbonne, pour rendre hommage au jeune Quentin avec un slogan « Justice pour Quentin ». Le reportage de Charles Bouchin pour Europe 1.
Sous la pluie battante, des centaines de personnes demandent justice pour Quentin. Au premier rang, Joseph, un ami proche du jeune homme de 23 ans, il fréquentait la même paroisse.
Mais c'est pour lui rendre hommage, pour faire savoir qui il était. L'homme profondément vertueux, noble qu'il était. Pour que tous les Français soient au courant, c'est non seulement une victime, mais également un martyr et un héros.
Dans les regards, de l'émotion, mais aussi beaucoup de colère. Quand les noms de Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Arnaud sont cités, les voix s'élèvent.
Assassins,
tous, comme Nicolas, assassins dénoncent une complicité de l'extrême gauche dans ce meurtre.
C'est inacceptable, il faut que ça cesse, il faut que la gauche soit condamnée pour la violence politique qu'elle a encouragée, que derrière, elle comprenne que soit elle rentre dans le champ républicain, soit il va falloir les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terroristes. Donc il va falloir les mettre en prison et pour longtemps.
Un avis partagé par Julien, 22 ans, mais qui craint que la violence ne continue.
Le danger aujourd'hui, c'est les révolutionnaires qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. La violence augmente et il ne se passe rien, donc je pense que ça va continuer, les morts, et que l'État ne fera rien.
Le rassemblement s'est terminé par une prière pour Quentin.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Puis spontanément, le public a entonné une Marseillaise.
Et ce drame provoque une onde de choc, y compris bien sûr dans la classe politique. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dénonce la violence de l'ultra-gauche.
Aujourd'hui, c'est l'ultra-gauche qui a tué. C'est incontestable. Et il ne faut pas nier la réalité.
De son côté, le porte-parole des Républicains, Othmane Nasrou, estime que la France insoumise est une menace pour les institutions françaises.
Aujourd'hui, la France insoumise crée le terreau fertile pour cette ultra-violence.
Et LFI de son côté se défend. Elle est embarrassée tout de même par le cas de Jacques-Élie Favreau, cet assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, qui aurait été vu par des témoins participer au lynchage de Quentin. Écoutez le député LFI Manuel Bompard.
Si un collaborateur parlementaire, quel qu'il soit, devait avoir une responsabilité dans ce drame, et il me paraît certain et évident qu'il ne peut plus être collaborateur parlementaire de qui que ce soit.
Jacques-Élie Favreau a annoncé qu'il se mettait en retrait de ses fonctions le temps de l'enquête et il nie toute participation au lynchage de Quentin. L'actualité en métropole, c'est aussi le retour du projet de loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture qui s'annonce décisive. La question de l'encadrement du droit à mourir devrait de nouveau faire débat, mais de nombreux médecins et soignants préféreraient un réel développement des soins palliatifs. C'est le cas par exemple du docteur Isabelle Arboret. Elle est médecin en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier à Paris.
On le voit évidemment tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a parfois des demandes de mort ou des demandes que la situation s'arrête parce que voilà, là ça devient difficile pour plein de raisons, mais on sait bien qu'il y a une notion de temporalité et que cette ambivalence qui s'exprime pour nous aussi, j'ai envie de dire, les bien portants, où il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et donc, il faut faire très attention à ne pas aller trop vite dans la temporalité. Les demandes, s'il y en a au début, cèdent très rapidement avec une prise en charge. Et on voit que la plupart des patients ont une force de vie jusqu'au bout et qui souhaitent rester auprès de leurs proches jusqu'au bout. Ce que ne veut pas, j'ai envie de dire, tout être humain, c'est de souffrir. Mais un être humain n'est pas en demande de mort. Qu'il ait des pulsions de mort, c'est possible. Mais l'être humain, il est dans un désir de vie.
Et notez que les partisans de l'encadrement de l'aide à mourir espèrent faire valider la loi pour une entrée en vigueur avant 2027. Un déplacement pour un dégel des relations. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'envole la nuit prochaine pour nous, pour Alger. Une visite officielle de 2 jours qui est attendue comme un signe d'amélioration des relations entre la France et l'Algérie. Caroline Baudry.
Les échanges dans le domaine sécuritaire devraient reprendre entre les deux pays. S'est félicité de nouveau Laurent Nunez. Il était l'invité du 20h de France de tout à l'heure.
C'est un voyage très important de réengagement de la relation avec l'Algérie. Oui, c'est un voyage important. J'ai l'espoir de renouer évidemment le dialogue sécuritaire avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, qui m'a invité. J'y ai répondu. On a un ordre du jour qui va nous conduire à balayer tous les sujets sécuritaires.
La question des OQTF d'abord, alors que Paris demande en vain à Alger de reprendre ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français. Le cas de Christophe Glaise, journaliste sportif emprisonné en Algérie, sera également abordé. Au début du mois, Laurent Nunez avait affirmé attendre une amorce de réponse d'Alger sur ces deux points, signe d'une possible désescalade. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme est aussi au programme de la rencontre. Le dernier déplacement d'un ministre de l'Intérieur en Algérie remontait à fin 2022. Gérald Darmanin s'y était rendu. Depuis, les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées. Point de départ de la crise, la reconnaissance en 2024 par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Une autre prise de position sur l'étendue du territoire algérien a coûté à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal près d'un an d'emprisonnement dans son pays natal.
Midi et 4 minutes, c'est la fin de ce journal.